Vous allez écouter Smite Jones sur RTV FM.
Une émission réalisée par la colonie Radio TV Téligo.
Bienvenue sur RTV FM. Aujourd'hui, je suis accompagné de Oscar qui va nous présenter les sports extrêmes, Axel, les animaux en danger, Benoît, les sous-marins, Héloïse, les chats et Maël, YouTube. Bonjour à tous.
Bonjour Nathan.
Bonjour Nathan.
On va commencer par Oscar qui va nous présenter sa chronique.
Alors, je vais vous présenter une chronique sur les sports extrêmes sont le BMX, le skate, la trottinette, la motoneige, le ski, le snowboard, le barfoot, le saut à l'élastique, le vol en wingsuit, le funambulisme, le ski surf, le bodyboard, le street luge, le plongeon à haut vol, le kayak en cascade et le parcours. La notion de sport extrême a évolué au fil du temps dans les années 1970 à 1980. Était considéré comme extrême seuls les sports pour lesquels les risques d'accident mortel en cas d'erreur étaient réels. À partir des années 1990, l'autoproclamation des sports extrêmes est devenue assez courante dans le but de valoriser l'activité. Depuis les années 2020, la définition s'est considérablement assouplie et se sont classés dans cette catégorie les sports qui offrent des fortes poussées d'adrénaline ou qui sont des variations de sports classiques initialement sans danger mais orientées vers la pratique plus dure, plus complexe et plus dangereuse. La notion des sports extrêmes reste subjective. Elle comprend un ensemble d'activités plus ou moins dangereuses. Voici quelques exemples d'autres sports parfois dits extrêmes. Le parcours, le free run, le speed riding, le kitesurf. 2004 est proposé une classification de sports extrêmes basée sur le milieu dans lequel ils sont pratiqués. Les sports aériens, le base jumps, le saut à l'élastique, vol à voile, les sports terrestres, alpinisme, escalade et les sports aquatiques, le barfoot, le plongeon à haut vol et l'apnée. Comme vous voyez, dans l'actualité, les sports font beaucoup de morts par an car il y a beaucoup de grandes chutes. Moi, je pratique du sport extrême et je vais tous les deux mois aux USA pour des compétitions. Je vais vous donner quelques exemples. Du BMX, du skate, de la trottinette, du ski et du snowboard. C'était ma chronique.
Merci Oscar. Qui a des questions à poser à Oscar? Donc Axel.
Quel est le barfoot?
C'est un sport aquatique.
Et il consiste à quoi?
On est sur une planche et on est tiré par un bateau en faisant des figures.
Bon, on va passer à une pause musicale pour le prochain, avant le prochain, la prochaine chronique.
Vous écoutez Smile Jeans, réalisé par la colonie radio-tv Téligo.
Vous êtes de retour sur RTVFM, l'émission Smile Jeans. Vous venez d'écouter Major Lazer. Nous allons écouter la chronique de Axel.
Ma chronique va parler des animaux en danger. Donc, au cirque, les animaux sont maltraités. Par exemple, ils sont mal nourris, tapés et sont enfermés dans des cages, alors qu'on sait tous qu'il serait mieux à courir dans la jungle. Dans les parcs, les dauphinariums existent. Les dauphins sont enfermés et les mamans doivent se battre pour gagner du territoire. Et souvent, en se battant avec des coups de queue, ils tuent leur bébé parce qu'ils doivent combattre d'autres mamans pour gagner du territoire. Maintenant, je vais vous parler des espèces en voie de disparition. À cause du réchauffement climatique et du braconnage, beaucoup d'espèces ont disparu. Par exemple, le Mustela turlota, le lynx pardinus, le crocodile du Siam, le hadax, les albatros des Galapagos, le dodo, l'anguille d'Europe, le gorille de l'Est, le singe nasisque et le tigre blanc. Les éléphants et les rhinocéros, pour leur ivoire qui font partie de leur défense et leurs cornes, se font poursuivre par les braconniers et on leur enlève aussi la fourrure. Je vais vous parler de l'abandon. Souvent, nous partons tous en vacances et déjà, quand on met des valises dans le coffre, c'est déjà très, très, très chargé. En plus, on emmène des fois son chat, son chien, son poisson rouge, son hamster, enfin, tous les animaux que vous avez. Et quand on repart des vacances ensuite, on a acheté plein de souvenirs. Et des fois, comme les souvenirs n'arrivent pas à rentrer, au mieux de jeter les souvenirs, eh bien, ils abandonnent leurs animaux dans la forêt, sur la route, et ils finissent seuls, froids et ni à boire, ni à manger. Maintenant, je vais vous parler du réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique a toujours existé, sauf que depuis que les hommes sont arrivés sur Terre, eh bien, il a beaucoup, beaucoup augmenté. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup d'espèces disparaissent. Parce que quand on fabrique des stylos ou alors du papier toilette, on fait ça dans des usines. Et l'air des usines se dévoile partout. Et du coup, la pollution augmente chaque jour de plus en plus. Et ça devient quand même un petit peu conséquent. Et du coup, j'ai aussi vous parler de la pollution. Souvent, quand on a des déchets et qu'on les jette sur le sol, par exemple, ce qui tient les bouteilles de coca ou de ce que vous voulez, on jette ça sur le sol et des animaux restent coincés à l'intérieur comme des tortues. Et si on l'enlèverait, elles seraient mal formées, du coup, elles ont du mal à se nourrir. Et l'espèce la plus en danger à cause de ça, c'est justement les tortues. Parce que les sacs plastiques, ils prennent ça pour des méduses, ils viennent les attraper. Et du coup, si vous trouvez des tortues échouées sur la plage, c'est parce qu'elles ont mangé des sacs plastiques, des brosses à dents, des tongs. Voilà, donc plein d'espèces sont menacées à cause de ça. Des oiseaux restent enfermés dans des sacs plastiques, ils ne peuvent plus s'alimenter. Les ours polaires, le réchauffement climatique, ils restent coincés sur des gros blocs de glace et du coup, ils ne peuvent plus s'alimenter pareil. Ils ont loin de leur bébé et tout. Maintenant, je vais vous parler des 30 millions d'amis et de la SPA. La SPA et les 30 millions d'amis recueillent les chiens et les chats qui ont été abandonnés. Et ils s'en occupent. Par exemple, il y a un chat qui avait été abandonné. Il n'a pas été recueilli par la SPA, malheureusement, ni 30 millions d'amis. Et des personnes qui ont un bon cœur et qui aiment les animaux s'en sont occupées. Maintenant, il va beaucoup mieux. Et c'est pareil pour l'histoire d'un chien.
Merci Axel. J'ai une question à poser à tout le monde. Que pensez-vous de ce qu'a dit Axel ?
C'était bien.
Et Benoît ?
Eh ben que tout ce qu'elle a dit, c'était vraiment très juste.
Ok, Maëlle ?
Moi, je trouve que la personne qui a recueilli les chiens est vraiment très gentille.
Et vous, Héloïse ?
Et moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que je ne savais pas, par exemple, dans des zoos, qu'ils maltraitaient les animaux, mais je ne sais pas qu'ils les maltraitaient au point de les taper. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses.
Oscar ?
Aussi, ça fait une morale sur la pollution, le réchauffement climatique et de ne pas abandonner les animaux.
Maëlle, encore une question ?
Moi, je ne savais pas que le réchauffement climatique pouvait impacter sur les ours polaires.
On va mettre une pause musicale. Après, c'est Benoît qui va parler de sa chronique.
Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet. les plus belles phrases. Je te dirai que moi la préface, je la connais. La nation s'embrasse. On se cherche de ville en ville. Par amour on se trouve, on laisse les âmes futiles écrire de beaux discours sans simplicité. La nation s'y engage et complicité. On fera des ravages. We are from the north. We came from the south. We are the nation. We are from the north. We came from the south. We are the nation. Yes, we are. Yes, we are. Je, tu, elle, il. On a la rage au cœur, nos langages subtils viennent d'ici et d'ailleurs. Nous ferons face et grâce à nos esprits, la nation s'embrasse. La nation guérit. We are from the north. We came from the south. Yes, we are. Est-ce que tu le sens, le bonheur qui se dessine à l'horizon? Est-ce que tu la sens, la chaleur? La nation devient ta maison. Embrasser le monde entier. We are from the north. We came from the south. We are the nation. We are from the north. We came from the south. We are the nation. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are.
Écoutez Smile Gents, réalisé par la colonie radio TV Téligo.
Vous êtes de retour sur RTVFM, l'émission Smile Gents. Vous venez d'écouter Nation. On va passer à la chronique de Benoît.
Moi, je parle des sous-marins. L'homme a toujours voulu faire des sous-marins, dont le premier date de 1624. Le premier sous-marin est apparu en 1624 et en 1775, la tortue de David Bushnell, qui est propulsé par ses bras, avait pour but de faire exploser les bateaux dans des ports avec plusieurs kilos d'explosifs. Les premiers sous-marins étaient pour faire des expériences sous-marines. Au tout début, on a fait plonger un tonneau dans l'eau. Puis, nous avons construit un peu deux coques mises l'une sur l'autre. L'hélice était propulsée par des manivelles que les marins tournaient. Ils en ressortèrent presque secs. Puis, nous avons créé des sous-marins avec un moteur. Les moteurs étaient... Pour le narwal, un moteur électrique en plongée et un moteur à vapeur en surface. Entre-temps, on a fait des sous-marins diesel, électriques ou diesel électriques. Aujourd'hui, on construit des sous-marins nucléaires avec des torpilles, un périscope de jour et un de nuit. Ils possèdent des sonars qui malheureusement rendent sourdes les baleines et les font échouer. Des hydrophones, des lumières rouges pour la nuit et blancs pour le jour. Pourquoi ? Car c'est le seul moyen de savoir s'il fait jour ou nuit. Des radars et plein d'autres appareils. Demain, le nouveau modèle appelé le Barracuda va sortir. Il est actuellement en cours de construction dans un chantier naval. Ce sous-marin lanceur d'engin est une technologie énormément avancée.
Merci Benoît. Qui a des questions à Benoît ? Axel ?
C'est quoi un sous-marin électrique et diesel ?
En fait, un sous-marin diesel, c'est-à-dire que la propulsion est un moteur qui marche au fioul ou au gasoil. Un moteur électrique, c'est un sous-marin qui a un moteur Sauf qu'il n'a pas un moteur diesel, il a un moteur électrique avec des batteries. Et un appareil nucléaire, c'est comme une mini centrale nucléaire dans un sous-marin.
Maëlle,
pourquoi les sous-marins actuels rentrent sur les baleines ?
En fait, c'est le sonar, il envoie une onde, et en fait, cette onde, elle rend sourd les baleines je sais pas comment dire, mais ces baleines, ça leur détraque, parce qu'elles aussi, elles envoient une onde un peu comme ça.
D'accord, merci Benoît.
Qui a d'autres questions ? Oscar ?
Tu sais quand il va sortir le Barracuda ?
Le Barracuda devrait sortir bientôt. Alors, on ne sait pas quand, mais normalement, bientôt. C'est le prochain sous-marin à venir.
C'est un sous-marin nucléaire.
C'est un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, plusieurs étages, avec tout ce que j'ai dit. Oui.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve après.
Smile Jones, réalisé par la colonie radio-tv Téligo.
Vous êtes de retour sur RTFM, l'émission Smile Jones. Vous venez d'écouter Spectre de Alan Welker. Donc, nous allons passer à la chronique de Héloïse.
Donc, je vais vous parler de la domestication des chats. Donc, quand et comment ont été domestiqués les chats ? Pendant longtemps, on a considéré que les anciens Égyptiens avaient été les premiers, il y a environ 3600 ans, à avoir des chats comme animaux de compagnie. Des découvertes génétiques et archéologiques réalisées au cours des 5 dernières années ont proposé une nouvelle approche de l'origine du chat domestique et de l'évolution de sa relation avec les hommes. On arrive à la conclusion que le chat aurait été domestiqué il y a près de 10 000 ans. Comme vous pouvez le remarquer, les chats sont les animaux préférés des hommes. On dénombre près de 10 millions de chats domestiques en France et plus de 600 millions dans le monde entier. Dans quelle partie du monde les chats domestiques sont-ils apparus ? Beaucoup de chercheurs s'accordent sur le fait que toutes les races de chats descendaient d'une seule espèce présente partout dans l'Ancien Monde, de l'Écosse à l'Afrique du Sud, en passant par l'Espagne et la Mongolie. Jusqu'à présent, on n'avait aucun moyen de déterminer avec certitude laquelle de ces populations de chats sauvages avait donné naissance aux chats domestiques. Certains se sont opposés à l'idée d'une origine égyptienne de la domestication du chat, qui selon eux se serait produite dans les différents endroits aboutissant à des races distinctes. Mais le problème reste entier. Comment distinguer les membres de groupes différents de chats sauvages et les différencier des chats domestiqués ayant le même pelage ? En effet, non seulement leur pelage était similaire, mais ils étaient interféconds, ce qui brouille encore davantage les frontières entre les diverses populations. En 2000, l'un d'entre nous s'est attaqué au problème en collectant des échantillons d'ADN de quelque 979 chats sauvages et domestiques en Afrique australe, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Mongolie et Moyen-Orient. Comme les chats sauvages occupent généralement un même territoire toute leur vie, ils s'attendaient à ce que la composition génétique des groupes de chats sauvages varie d'une région à l'autre, mais soit stable dans chaque région, comme c'est le cas chez de nombreuses autres espèces de félins. Si les différents groupes de chats sauvages avaient eu des ADN différents, et si l'ADN des chats domestiques avait ressemblé à celui de l'un des groupes, alors on aurait eu une idée de l'origine du chat domestique.
Merci Héloïse. Qui a des questions à lui poser ? Oscar, oui ?
On en est sûr que les chats sont apparus en Égypte pendant il y a très longtemps ?
Bah, il y a certains archéologues qui disent qu'ils sont apparus là-bas et d'autres qui disent que non.
Benoît ?
Et si les chats étaient venus d'Égypte, savez-vous les espèces qu'il y avait ou les archéologues n'en ont pas découvert ?
Non, je ne sais pas.
D'accord, donc on va se faire une autre pause musicale et on se retrouve après.
You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention.
This is cool. But you're not coming home with me tonight. You just want attention.
Écoutez Smile Jones, réalisé par la colonie Radio-TV Téligo.
Vous êtes de retour sur RTVFM, l'émission Smile Jones. Vous venez d'écouter Charlie Puth. Donc on va passer à la chronique de Maëlle, qui va nous parler de YouTube.
Bonjour, je vais vous parler de YouTube. Alors, YouTube est un site web d'hébergement de vidéos. Il a été créé en février 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Trois anciens employés de PayPal. Il fut racheté par Google en octobre 2006 pour la somme de 1,65 milliard de dollars. En 2009, environ 350 millions de personnes visitent chaque mois ce site. En février 2017, YouTube annonce avoir franchi le cap du milliard d'heures de vidéos vues quotidiennement. En décembre 2016, la chaîne YouTube compte le plus d'abonnés et celle de PewDiePie, plus de 50 millions en décembre 2016. Et la vue vidéo la plus vue a été visionnée près de 3 milliards de fois. En fait, les utilisateurs de YouTube qui postent des vidéos sur le site sont rémunérés par AdSense et non par YouTube lui-même. AdSense est le réseau publicitaire de Google, mais aussi le plus important source de revenus de la firme. Il dispose d'un système d'intelligence artificielle qui génère la publicité et paie les vidéastes d'après le système suivant. Pour chaque millier de vues qu'un vidéaste enregistre pour sa vidéo postée sur YouTube, AdSense le paye. Par exemple, pour une vidéo qui a été regardée 1 million de fois, le créateur gagne donc en moyenne 7,600 $, environ 6 800 €. Ce site peut également servir à des jeunes talents pour se faire repérer. Je vous propose une compilation sur eux. 1. Justin Bieber repéré par Usher. 2. Avery repéré par Universal. 3. Alyssa Bernal repéré par Pharrell Williams. 4. Isabelle Braff repéré par Warner. 6. Cody Simpson repéré par Atlantic.
Merci Maëlle. Maintenant, j'ai juste une question à poser. Quel est votre YouTuber préféré à tous? Parce qu'on vient de parler de YouTube. Benoît.
Moi, en fait, je ne regarde jamais YouTube, donc j'en ai pas.
Axel.
Tout ce qui est humour. À peu près Squeezie, Norman, Natou.
Oscar.
Norman fait des vidéos.
Héloïse.
Moi, je suis comme Benoît, je regarde pas souvent YouTube.
Mon YouTubeur préféré est Adric.
Alors moi, c'est Diléo. Je le dis, il est pas très connu, mais j'adore. On arrive à la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que cette émission est réécoutable sur www.tvfm.net. Merci Axel et Héloïse et Benoît, Maël et Oscar. Et à très bientôt.
Au revoir.
Merci Nathan.
Au revoir et merci.
Au revoir Nathan.
À très bientôt.
Vous venez d'écouter Smile Jump sur RTVFM.
Réalisé par les jeunes de Radio TV Téligo.